À 8h30, la revue de presse avec vous, Rosalie Lafarge. Y a-t-il quelque chose qui cloche au sein de la commission des comptes de campagne en ce moment?
À en croire ce témoignage publié dans Le Parisien, sans aucun doute. Cette commission, elle épluche les comptes de campagne des candidats aux élections en France et à la fin, elle valide, elle rejette ou elle corrige, ce qui permet ou non le remboursement. Cette commission, elle a connu fin novembre une démission fracassante, celle d'un de ses rapporteurs qui témoigne donc aujourd'hui dans Le Parisien. Il dénonce un système opaque, fort peu démocratique et de graves dysfonctionnements. Il en veut pour preuve cette réunion du 20 novembre, chargée d'éplucher les 52 cartons de factures de Jean-Luc Mélenchon. Il a, dit-il, déniché nombre de dépenses litigieuses, 1,5 million d'euros qui ne devraient pas, selon lui, ouvrir droit à un remboursement.
Et c'est quand il les détaille à sa hiérarchie que ça commence à se gâter.
La commission, dit-il, refuse de tenir compte de toutes ces observations. On lui suggère de revoir nettement à la baisse ses propositions de régularisation. On lui demande, toujours selon lui, de fermer les yeux. Il ne comprend pas, n'accepte pas. Et au terme de cette réunion longue, houleuse et difficile pour lui, il claque la porte. Son témoignage aujourd'hui, il l'assure, ce n'est pas pour mettre à l'index le patron de la France insoumise, non. C'est pour dénoncer ce système qui ne lui a laissé d'alternative que celle de se soumettre ou de se démettre. Il a choisi la deuxième option et c'est donc à lire dans Le Parisien.
Après avoir tenu ses comptes, il faut parfois savoir rendre des comptes.
Et c'est ce que fait le Premier ministre ce matin dans le JDD avec notre politique Le Travail paye, promet Édouard Philippe en une. Entretien où l'on apprend honnêtement peu de choses sur les privatisations, il y en aura. Sur les éventuelles recettes fiscales supplémentaires, elles serviront à désendetter la France. Sur la baisse annoncée de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes, s'il faut être impopulaire pour sauver des vies, j'accepte. Sur Notre-Dame-des-Landes, la décision mûrit. Et voilà pour les grands thèmes abordés par Édouard Philippe dans le journal du dimanche.
Le Premier ministre qui fait partie des adeptes de plus en plus nombreux de la boxe.
C'est ce qu'on apprend dans Capital. Les cols blancs montent en force sur les rings selon le magazine. Les personnalités et les CSP+, comme on dit, sont de plus en plus nombreux à mettre les gants. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils y trouvent un lien avec le monde de l'entreprise ou de la politique. Il faut être rapide, parfois frapper le premier, anticiper les coups, savoir les encaisser, résume un patron. Ça permet de décharger son stress et son agressivité dans un cadre contrôlé et de ne pas les ressortir au travail, ajoute une chef d'entreprise. Ça enseigne enfin l'art de l'esquive, pas inutile pour des négociations ou des débats télé, précise le fondateur d'un cabinet de conseil. Quand on tourne quelques pages de Capital, on se demande si Patrick Drahi n'aurait pas dû s'inscrire à la boxe.
Oui. Et le magazine Capital qui décrypte effectivement la méthode du patron de SFR.
Un management abracadabran qui a conduit au fiasco, des méthodes brutales, en plus inefficaces. Et ça se ressent du client au sous-traitant, en passant évidemment par les salariés, détail Capital. La courbe des résultats d'SFR est d'ailleurs à peu près l'inverse de celle du clan Urbani. La famille italienne domine le commerce mondial de la truffe depuis 1852. Et le secret de sa longévité, à lire dans Le Point, c'est peut-être sa faculté à s'adapter au marché. On apprend par exemple que la truffe blanche est passée dans un sable doré avant d'être expédiée aux États-Unis. Sinon, les Américains la trouvent trop terne, pas assez chic.
Alors, gestion des comptes de campagne, gestion de la politique du gouvernement, gestion de son énergie ou encore de son entreprise, finalement. Il est beaucoup question de gestion dans la presse de ce dimanche.
Qu'en est-il de la gestion des relations? Demandez au laboratoire pharmaceutique, il maîtrise. Alternatives économiques propose ce mois-ci une vaste enquête sur les liens entre les labos et les médecins. Le phénomène n'est pas nouveau, le mensuel le reconnaît lui-même, mais les données exclusives qu'il publie prouvent son ampleur. Avec d'abord cette façon qu'ont les labos de s'immiscer dans les facs de médecine. Ainsi, presque tous les doyens de faculté ont eu un lien avec l'industrie du médicament entre 2012 et 2016, à des degrés plus ou moins importants. Les sommes engagées vont de 20 euros à près de 80 000.
Les étudiants aussi sont ciblés.
Ce sont les futurs prescripteurs des médicaments, alors ils sont chouchoutés à coups de fournitures ou de grandes fêtes au château. Mais l'omniprésence des labos ne s'arrête pas à la fac. Ça continue à l'hôpital où les médecins font l'objet de toutes les convoitises à travers un lobbying agressif, systématique et opaque, souligne Alternatives économiques. Ça continue en politique où les 5% de députés médecins ont pour la plupart des liens déclarés avec les laboratoires. Dons de matériel, invitation à un repas, à un congrès, ce n'est pas de la corruption, rappelle Pierre Chirac, le directeur de la revue médicale Prescrire, mais c'est une pratique d'influence inconsciente qui arrive au même résultat.
On ne le dira jamais assez, attention à tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux.
Ça peut se retourner contre vous, ça ne fait visiblement pas peur à Donald Trump, qui a encore usé de sa gouaille sur Twitter, hier on en parlait à 8h. Il s'est lui-même qualifié de génie très stable et ça fait les choux gras de la presse américaine. Après tout, chacun gère son image comme il veut. Et il croyait la gérer, Ryan Nezar, tout juste nommé porte-parole de La République En Marche. Il a fait place nette dans ses tweets, il en a supprimé près de 5000. Mais Internet garde des traces et le site BuzzFeed compile quelques-uns ancien tweet du bonhomme. Il insulte, et pas à demi-mot, Marine Le Pen, Jean-François Copé ou encore une journaliste. Le porte-parole, qui s'est excusé hier, va devoir apprendre à la maîtriser, sa parole.
La gestion d'un effectif est cette fois à la une de l'équipe.
Celui du PSG, cette fois c'est l'heure, titre le quotidien sportif. Attendu à Rennes ce soir en Coupe de France, Paris doit remettre un peu d'ordre dans ses rangs après une semaine mouvementée, selon l'équipe. La gestion de la pression pour les petits de cette Coupe de France est-elle à la une de pas mal de titres régionaux? L'indépendant catalan met à l'honneur le Canet Roussillon FC, première équipe catalane de l'histoire à se qualifier pour les 16e de finale. Le Maine Libre félicite les joueurs du Mans FC sortis avec les honneurs hier par Lille. La joie de la Berrichonne de Châteauroux après sa qualification est-elle en une de la Nouvelle République?
Et on termine par la gestion de nos relations amoureuses.
Comment s'aimera-t-on en 2018? Vaste question posée par Marianne cette semaine. Pour éliminer le conjoint sans renoncer au couple, choisissez la sologamie qui consiste à se marier avec soi-même. Si vous avez besoin de nourrir votre amour de respirations extérieures, comme c'est joliment dit, optez pour le couple fissionnel. Ici, l'autonomie de chacun devient la garante de l'équilibre conjugal. Sinon, faites confiance à l'algo-matching. Grâce aux algorithmes, on va vous trouver le conjoint idéal en croisant vos données et les siennes sur les réseaux sociaux. Encore faut-il y avoir été honnête sur ces réseaux.
Eh bien, on sera honnête. C'était la revue de presse de Rosalie Lafarge.